Good morning.
Bonjour à tous. Le secrétaire général va commencer par dire quelques mots d'introduction au rapport annuel et ensuite, comme toujours, il sera prêt à répondre à vos questions. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bienvenue au lancement de mon rapport annuel pour 2015. L'année dernière, nous avons vu comment l'insécurité à l'étranger peut directement avoir une incidence sur notre sécurité dans nos pays. Nous l'avons vu lors des attentats terroristes dans nos villes, lors de la plus grosse crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, et également par les actions que la Russie continue à mener en Ukraine, ainsi que son renforcement militaire récent en Syrie et à l'est de la Méditerranée. Mais l'année dernière, nous avons également vu comment l'OTAN est capable de répondre. Nous avons mis en œuvre le plus gros renforcement de notre défense collective depuis la guerre froide. Par ailleurs, les réductions dans les budgets de défense des alliés européens ont pratiquement été totalement arrêtées maintenant. Je voudrais tout d'abord parler de la défense collective et de la dissuasion. Nous avons renforcé la présence de l'OTAN de façon visible dans la partie est de l'Alliance. Et au sud, nous avons continué à renforcer la présence des AWACS au-dessus de la Turquie. Nous avons multiplié par 3 la taille de la force de réaction de l'OTAN pour atteindre plus de 40 000 hommes. Et au centre de cette force, la NRF, nous avons notre force fer de lance à haut état de préparation qui est maintenant opérationnelle et qui peut être déployée en quelques jours là où elle en a besoin. J'ai été très impressionnée en voyant cette force à l'œuvre lors d'un premier exercice de déploiement en Pologne. Nous sommes également en train de mettre en place 8 unités d'intégration de force ou plus petits quartiers généraux dans la partie orientale de l'Alliance. Ces QG sont là en appui de la planification, de la formation et pour les renforcements si nécessaire. Pour lutter contre la guerre hybride, nous améliorons notre renseignement et notre alerte avancée. Nous renforçons notre processus de prise de décision. Nous renforçons notre cyberdéfense. L'année dernière, nous avons mené quelque 300 exercices des pays alliés, y compris l'exercice qui a été le plus important en taille et le plus complexe depuis une décennie, avec plus de 36 000 hommes, 140 aéronefs et 60 navires provenant de 30 pays. Cet exercice Trident Juncture s'est déroulé en Espagne, au Portugal et en Italie. Cela a été une manifestation formidable de nos capacités et de la capacité des alliés à travailler ensemble. Nous allons continuer à renforcer nos exercices cette année et nous allons continuer à le faire de façon très transparente. Comme vous pouvez le voir en regardant le calendrier des exercices que nous avons publié en ligne. Durant les 2 dernières années, l'activité aérienne de la Russie à proximité de l'espace aérien européen de l'OTAN a augmenté d'environ 70%. En réaction, les appareils alliés ont été mis en alerte plus de 400 fois afin d'intercepter des appareils russes. Nous avons considérablement progressé en ce qui concerne notre nouveau système de surveillance terrestre allié, y compris avec un premier test en vol de un de nouveaux drones Global Hawk. Ce système va donner du renseignement en temps réel aux commandants dans le théâtre. Et puis nous avons également beaucoup progressé en matière de système de défense antimissile balistique, avec l'arrivée de 2 nouveaux navires américains Aegis qui sont basées en Espagne. Nous avons également progressé pour l'activation de notre installation Aegis Ashore en Roumanie. Et au printemps, nous allons avancer pour ce qui est du nouveau site en Pologne. Il s'agit d'un système défensif qui vise à protéger les alliés européens contre une menace réelle de missiles balistiques provenant de l'extérieur de la zone euro-atlantique. Bien sûr, le renforcement de notre posture de défense vient avec un coût. C'est pourquoi, en 2014, les dirigeants de l'OTAN se sont engagés à ne plus réduire leur budget de défense et progressivement de les augmenter. Durant l'année dernière, nous avons commencé à avancer dans la bonne direction. Après de nombreuses années durant lesquelles il y avait eu des réductions importantes dans les dépenses en matière de défense, ces réductions se sont pratiquement maintenant totalement arrêtées dans les pays alliés européens. Et en 2015, ces coupes des budgets de la défense étaient pratiquement à zéro. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres. Cinq alliés se conforment maintenant à notre orientation, qui est de dépenser 2% du PIB ou plus pour la défense. 16 alliés ont consacré davantage que cela à leur défense en termes réels en 2015. Et 23 alliés ont augmenté les sommes qu'ils consacrent aux nouveaux équipements militaires. Tout cela a requis un très gros effort et néanmoins nous devons en faire encore davantage. En effet, que ce soit à l'est ou au sud, nous sommes confrontés au plus gros défi sécuritaire depuis une génération. L'OTAN est au premier plan de la lutte contre le terrorisme international. Le but de notre mission en Afghanistan a été d'empêcher les terroristes internationaux d'avoir des refuges. Nous continuons à former, à conseiller et à assister les forces armées et la police afghane. Ils sont face à de gros défis, mais ils réussissent à tenir bon. Nous avons décidé de maintenir notre niveau de force militaire pour cette année au même niveau. Et nous allons continuer à voir comment nous pouvons contribuer à financer les forces de sécurité afghanes jusqu'en 2020. Tous les alliés de l'OTAN participent à la coalition globale et qui vise à lutter contre le terrorisme international. Et pour pouvoir lutter contre l'instabilité, l'OTAN travaille encore plus étroitement avec nos partenaires dans la région. Nous sommes en train de renforcer les capacités de défense de la Jordanie. Nous allons former des officiers irakiens et nous travaillons avec la Tunisie pour ce qui est du renseignement et des forces spéciales. Et nous travaillons également avec d'autres pays en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Dans les Balkans occidentaux, notre mission au Kosovo continue à apporter la sécurité et la stabilité à cette région qui en a réellement besoin et qui continue à être très volatile. En 2015, nous avons pris une autre décision importante pour faire progresser la stabilité dans les Balkans occidentaux. Nous avons invité officiellement le Monténégro à entamer les pourparlers pour devenir le 29e membre de l'OTAN. Les négociations d'adhésion vont commencer à la mi-février. À l'est, nous continuons à appuyer l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie à résister aux pressions extérieures. Nous les aidons de différentes façons à renforcer leurs capacités de défense, à moderniser leurs institutions et à renforcer leurs réformes. Dans moins de 6 mois, les dirigeants des pays alliés vont se retrouver lors de leur sommet à Varsovie. Nous allons adopter de nouvelles mesures pour renforcer notre défense et notre dissuasion. Nous ferons les arbitrages nécessaires pour arriver au bon équilibre entre la présence avancée à l'est et notre capacité à renforcer. Nous traiterons des crises au sud, nous apporterons le soutien nécessaire à nos partenaires et nous ferons le point sur les progrès en matière de dépenses pour notre défense. Au cours de ces dernières années, le monde est devenu plus dangereux et plus imprévisible. Mais l'OTAN est à même de s'adapter pour garantir la sécurité de ses membres. En 2016 et dans les années qui suivront, l'OTAN restera une ancre de stabilité en restant forte, ouverte au dialogue et travaillant avec ses partenaires à travers le monde. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions.
They will go to Wall Street Journal.
Nous allons demander au Wall Street Journal de prendre la parole. Monsieur le secrétaire général, tout d'abord, combien ces changements dans les tendances en matière de dépenses de défense sont liés aux actions de la Russie à l'Est? Et quelles mesures de renforcement de la dissuasion envisagez-vous pour le sommet de Varsovie, pour avancer sur la base du RAP? La raison pour laquelle nous avons décidé de mettre fin aux coupes budgétaires pour la défense lors de notre sommet en 2014 était l'environnement sécuritaire changeant rapidement, évoluant rapidement, et la Russie en fait partie. À l'Est, la Russie a investi beaucoup en matière de défense dans les années passées et a démontré la volonté de faire usage de la force militaire pour changer les frontières en Europe. Et ce, c'est la première fois que cela se passe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Par ailleurs, on peut constater l'instabilité, la violence, les bouleversements au sud. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre fin aux coupes budgétaires et d'augmenter petit à petit les dépenses de défense. Et nous constatons maintenant que nous évoluons sur la bonne voie. La première année après avoir entrepris cet engagement, ces coupes budgétaires ont pris fin parmi les alliés européens et le Canada. Il nous faut en faire davantage. Nous devons entamer des augmentations. Mais au moins, nous sommes sur la bonne voie. L'autre question portait sur ce sur quoi nous allons investir. Il nous faut bien sûr investir davantage dans l'équipement moderne et des types différents d'équipements. Et par exemple, pour traiter des menaces hybrides ou de cyber, il nous faut davantage de dispositifs de surveillance, de renseignement. Il nous faut davantage de capacités cybernétiques. Mais bien sûr, il faut des équipements, du matériel dur comme des blindés de haut niveau pour assurer la défense collective. Par exemple, le ravitaillement en vol et d'autres capacités techniques. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas seulement concentré sur le besoin de dépenser davantage, mais également de dépenser mieux. Reuters, j'ai une question concernant la posture éventuelle à l'Est. Vous avez parlé des unités d'intégration des forces et nous connaissons la force fer de lance, mais qu'envisagez-vous d'autre? Nous avons déjà renforcé notre présence à l'Est de par les mesures d'assurance, davantage d'aéronefs dans le ciel, davantage de bottes au sol et davantage de navires en mer Baltique et en mer Noire. Nous établissons également ces petits quartiers généraux et nous avons également des exercices qui se déroulent à l'Est. Tout cela fait partie d'une intensification de notre présence à l'Est de l'Alliance. Cette décision a déjà été prise et des actions ont déjà été mises en œuvre. Et alors que nous préparons le sommet de Varsovie, nous réfléchissons à ce qui est nécessaire. En plus, il faut trouver le bon équilibre entre une présence renforcée à l'est de l'Alliance avec une capacité renforcée afin de donner des renforcements en cas de besoin. Il est trop tôt pour anticiper ce que nous souhaitons décider à Varsovie, mais je peux confirmer que nous traitons précisément de ces questions en ce moment, notamment la présence renforcer, que ce soit en matière de personnel, d'équipement, de prépositionnement, d'infrastructure pour faciliter le renforcement en cas de besoin. Je souligne, nous ne revenons pas à la posture de la guerre froide où des centaines de milliers de militaires étaient positionnés le long des frontières. Nous n'allons en aucun cas revenir à cette posture. Mais nous envisageons tout de même un renforcement de la présence militaire et un plus haut niveau de préparation de nos troupes pour le déploiement. Ce sera l'un des thèmes clés de notre sommet à Varsovie. Et c'est le sujet de débat parmi les alliés en ce moment. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Lors d'un comité militaire passé, on a débattu d'options parmi les alliés pour renforcer la coalition anti-EIL, notamment l'utilisation des AWACS et leur déploiement éventuel dans le théâtre. Est-il envisagé, par exemple, qu'ils se rendent dans d'autres théâtres et que des pays individuels envoient leurs AWACS dans la région? Est-ce que les alliés envisagent d'autres mesures dans ce domaine? Et pouvez-vous nous expliquer de manière plus concrète les activités de formation des forces irakiennes de l'OTAN? Est-ce que cela se fera dans le théâtre? Et d'après ce que je sais, le paquet est toujours en cours de préparation et les activités concrètes n'ont pas démarré. Pouvez-vous me confirmer cela? Et par rapport aux dépenses en matière de défense, je ne sais pas si je me trompe à propos des chiffres, mais si j'ai bien compris, les alliés européens de l'OTAN ont réduit, les dépenses de l'OTAN étaient réduites de 1,5% en 2015. Et donc, malgré les efforts de certains alliés, les coupes ont lieu chez d'autres alliés et les dépenses générales de l'Alliance ont été réduites de 1,5%. Merci. Tout d'abord, à propos des AWACS, je peux confirmer que nous avons eu une demande de la part des États-Unis de fournir un soutien aux efforts de la coalition et de les aider avec les avions de surveillance AWACS. Nous réfléchissons par rapport à cette demande. Les délibérations se font parmi les 28 alliés qui prendront une décision ensemble et nos réflexions portent sur comment aider et comment répondre à cette demande de la part des États-Unis. Mais je souligne dans ce contexte que tous les alliés de l'OTAN font déjà partie de la coalition. Il s'agit ici de savoir comment l'OTAN, en tant qu'alliance, peut apporter son soutien à la coalition dont font partie tous les alliés de l'OTAN déjà. Nous avons cette capacité, des aéronefs AWACS sont déjà stationnés en Turquie. Nous envisageons d'autres moyens d'aide et nous prendrons une décision à 28. En ce qui concerne la formation des officiers irakiens, cette formation aura lieu en Jordanie. Je dois demander une confirmation des chiffres. Je ne peux pas vous en donner des chiffres précis pour l'instant, mais l'entraînement devrait démarrer bientôt. Nous avons lancé une coopération avec la Tunisie. Nous avons rencontré le Premier ministre tunisien. J'ai rencontré le Premier ministre irakien à Davos la semaine dernière. Et il salue le soutien apporté par l'OTAN, il souhaite en recevoir davantage et nous envisageons maintenant comment renforcer notre soutien pour ces pays. Tout cela fait partie d'une manière très spéciale de confronter les problèmes que nous constatons au Sud. Il est essentiel de projeter la stabilité, non pas seulement en déployant des forces de combat de l'OTAN, mais également en formant les forces locales. Au final, la prévention est préférable à l'intervention. L'OTAN doit être prête à déployer un grand nombre de forces de combat à l'avenir, comme cela a été le cas en Afghanistan, mais nous devons également œuvrer davantage pour renforcer les capacités locales, de former, d'assister et de conseiller les forces locales, puisque au final, il sera mieux si ces forces sont en mesure de se protéger elles-mêmes plutôt que nous luttions dans leur guerre. C'est ce que nous souhaitons faire en Afghanistan et nous souhaitons le faire également au Moyen-Orient et en Afrique. Enfin, en ce qui concerne les dépenses, il faut distinguer entre deux éléments. Certes, les États-Unis dépensent bien plus que 2% et ont un niveau de dépenses bien supérieur aux autres alliés. Ils ont réduit leurs dépenses en partie suite à la réduction de leur présence en Afghanistan et en Irak, mais leurs dépenses se situent toujours au-dessus de 3%. Certes, d'autres réductions ont eu lieu dans les dépenses en Europe, mais ces dépenses restent à plus de 2%. 72% des dépenses de l'OTAN correspondent à des dépenses des États-Unis, et donc tout changement dans les dépenses américaines vont avoir leur impact sur les dépenses OTAN en général. Et le problème vient du partage des dépenses, de l'équilibre des dépenses entre les alliés européens et les États-Unis. Et le niveau total des dépenses en Europe. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre fin aux coupes budgétaires et d'approuver une augmentation et d'avoir pu entamer ces efforts en l'espace d'un an n'est qu'une première étape. Nous en sommes qu'au début, mais c'est tout de même un début.
Alors, il y a une longue liste de questions. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de poser une ou deux questions grand maximum par personne. Bonjour, Monsieur le Secrétaire Général, Journal Espagnol ABC. Je pense que vous savez quelles sont les difficultés politiques en ce moment à Varsovie, fait que la Commission européenne a lancé une enquête sur le respect des règles de l'Union européenne. Sachant les changements qui sont intervenus concernant la législation et la constitution à Varsovie, j'aimerais savoir si ceci vous inquiète, si le fait que ce conflit politique puisse avoir une incidence sur le sommet. Réponse. L'OTAN et l'Union européenne partagent les mêmes valeurs, la démocratie, la liberté individuelle, les libertés individuelles. Et ces valeurs sont les valeurs des droits de la personne humaine qui sont fondamentales tant pour l'OTAN que pour l'Union européenne. Mais l'OTAN ne dispose pas de mécanismes similaires à ceux de l'Union européenne. C'est pourquoi il y a des questions qui sont traitées purement à l'Union européenne et je ne vais pas m'ingérer dans ces processus. Ce que je peux vous dire, c'est que les valeurs fondamentales que nous partageons sont très importantes pour l'OTAN, les libertés individuelles, la démocratie, les droits de l'homme. Tout cela sont des valeurs sur lesquelles l'OTAN repose et que nous défendons. J'ai rencontré récemment le président polonais et nous avons discuté de l'importance de ces valeurs pour l'Alliance. Ces valeurs sont également importantes pour l'OTAN parce que c'est à la base de l'unité de notre Alliance, ce qui représente le fondement de notre force et de notre capacité à agir ensemble. Question ? Merci, Daniès De Vrin, TASS. Monsieur le secrétaire général, cela fait déjà 2 mois depuis que l'appareil russe a été abattu au-dessus de la Turquie à proximité de la Syrie. On parle beaucoup de la nécessité d'éviter les incidents entre l'OTAN et la Russie. Donc j'aimerais savoir depuis 2 mois, qu'est-ce qui a été fait pour mettre en place des communications dans ce sens et quand est-ce que l'on peut s'attendre à une nouvelle réunion du Conseil OTAN-Russie? Réponse. L'appareil russe qui a été abattu car il était en violation de l'espace aérien turc. Cet incident a montré l'importance du renforcement des mesures de prévisibilité pour réduire précisément ce type de risque d'incident. Et pour cette raison, nous souhaitons à la fois renforcer les mécanismes existants, mais nous sommes aussi en train d'étudier la possibilité de mettre en place de nouveaux mécanismes. Hier, le Conseil de l'Atlantique Nord a tenu une réunion avec la présidence en exercice de l'OSCE et nous avons précisément parlé de l'importance d'avoir plus de transparence, plus de prévisibilité, notamment en ce qui concerne le document de Vienne. Le document de Vienne est un régime qui permet notamment qui porte sur les exercices militaires. Nous avons évoqué à plusieurs reprises avec nos homologues russes la nécessité de renforcer ce type de mécanisme et nous allons continuer à en discuter, donc aussi bien à l'OSCE que directement avec la Russie. Nous sommes en train d'étudier la possibilité d'organiser une réunion du Conseil OTAN-Russie. Les activités du Conseil OTAN-Russie n'ont pas été suspendues en tant que telles et nous sommes donc en train d'envisager la possibilité de tenir une nouvelle réunion. Mais il n'y a pas encore de décision ferme qui a été prise. Nous devons en discuter, bien sûr, avec la délégation russe auprès de l'OTAN et prendre une décision concernant cette réunion. Question ? Monsieur le secrétaire général Radio Allemande, une question suite à la demande des États-Unis d'utiliser des appareils AWACS pour la coalition contre Daesh. Je crois que à Berlin, il n'y a pas eu beaucoup d'enthousiasme pour cette demande. Est-ce que vous êtes en contact avec Berlin pour discuter de cette possibilité et est-ce que les ministres de la Défense en discuteront lors de leur réunion en février? Réponse, nous sommes bien sûr en contact étroit avec l'Allemagne qui est membre de cette coalition menée par les États-Unis. Donc les États-Unis demandent des AWACS en soutien des efforts de la coalition et l'Allemagne fait partie de la coalition, mais en même temps, la coalition est un des 28 pays alliés et nous souhaitons que la décision soit prise à 28. Donc l'Allemagne, bien sûr, est pleinement associée à ce processus. Nous allons voir comment nous pouvons au mieux apporter ce soutien. Il n'y a pas encore eu de décision qui a été prise à ce sujet. Je ne vais pas vous donner de date précise, mais c'est un sujet qui sera abordé, notamment par les ministres de la Défense quand ils se réuniront prochainement. Par contre, je ne peux pas vous dire à quel moment la décision sera prise. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'OTAN appuie déjà les efforts déployés par la coalition internationale qui lutte contre l'État islamique. Et nous allons commencer la formation des officiers irakiens très prochainement pour aider l'Irak à être plus forte dans sa lutte contre Daesh. Nous aidons la Jordanie, qui est aussi un pays clé dans cette région. Et nous avons une présence militaire en Turquie pour renforcer leur défense aérienne. Il y a par exemple des batteries patriotes espagnoles qui sont déployées à proximité de la frontière entre la Turquie et la Syrie où nous combattons Daesh. Par ailleurs, notre présence en Afghanistan nous permet aussi de lutter contre le terrorisme international car en Afghanistan, comme nous le voyons, Daesh est en train de progresser, donc il faut voir cette coalition internationale dont fait partie l'OTAN qui joue un rôle important dans cette lutte.
Il nous reste une série de questions, donc nous allons commencer par Hansa. Bonjour, agence Hansa. Monsieur le secrétaire général, vous avez salué la fin des coupes budgétaires en matière de défense, mais l'Italie a réduit ce budget de 12,4% l'année dernière. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Et en termes absolus, en Europe, on constate toujours une réduction des dépenses en Europe. Donc, que vous proposez-vous au gouvernement italien? Avant tout, soyons au clair à propos d'une chose. Durant des années, nous avons pu constater des coupes importantes en dépenses de défense parmi les alliés européens. Ce qui est important avec les chiffres pour 2015, c'est que les coupes sont à un niveau quasi zéro, ce qui n'est pas une bonne nouvelle en soi, puisqu'il nous faut bien davantage. Mais par rapport à une poursuite des coupes, c'est bien préférable. De mettre fin aux coupes est une première étape. Et ce que nous avions décidé au Pays de Galles était trois étapes. Tout d'abord, mettre fin aux coupes, ensuite augmenter les dépenses en matière de défense et ensuite d'atteindre le niveau de 2%. Nous avançons à présent, mais il nous reste bien du chemin à parcourir. Ce n'est pas seulement une question de réduire les coupes, mais il faut également dépenser davantage. La situation est donc mitigée, mais meilleure. Auparavant, les dépenses totales européennes en matière de défense ont décru durant des années. La situation est plus diverse maintenant. Certains alliés poursuivent les coupes budgétaires, d'autres augmentent leurs dépenses. Mais les augmentations sont plus importante chez certains alliés, ce qui si fait que nous atteignons un niveau de zéro en général. Et donc je souhaiterais que tous les alliés qui dépensent moins de 2% mettent fin à leur réduction et petit à petit augmentent leurs dépenses. Et cela concerne également le gouvernement italien. Très bien, James. Jane Stephens, vous n'avez pas évoqué la Libye, où la situation est chaotique. Est-ce que vous envisagez des actions pour prévenir la formation de refuges pour les terroristes dans ce pays? Est-ce que vous effectuez une planification fondée sur la prévision pour ce pays? Réponse. En ce qui concerne la Libye, les efforts se concentrent sur des efforts politiques pour mettre en place un gouvernement d'accord national, d'union nationale et d'atteindre un cessez-le-feu. Nous avons pu constater des améliorations, mais également quelques obstacles dans les pourparlers appuyés par les Nations Unies, mais nous les soutenons et le mieux que nous puissions faire, c'est d'offrir notre plein soutien à ces pourparlers. En cas de formation d'un nouveau gouvernement d'unité nationale, l'OTAN se tient prête à soutenir, à assister, à renforcer les institutions sécuritaires, ainsi que de soutenir le nouveau gouvernement d'unité nationale en Libye. Mais bien sûr, ce gouvernement doit demander un tel soutien et les conditions sur le terrain doivent être différentes qu'à présent. En ce qui concerne la Russie, pouvez-vous nous dire votre avis à propos de l'état actuel des accords de Minsk? Donc, quel est l'état d'avancement, puisque nous n'avons pas entendu évoquer de retrait important? Nous ne sommes pas certains de sa mise en œuvre. Et pouvez-vous nous dire ce qu'envisage l'OTAN en matière de de lutte contre la propagande. Il semblerait que vous envisagez des mesures plus strictes. En ce qui concerne Minsk, nous avons des avancements, mais également quelques pierres d'achoppement dans la mise en œuvre de ces accords. Le seul moyen de trouver une solution pacifique en Ukraine, c'est la mise en œuvre à part entière des accords de Minsk. C'était donc encourageant l'automne dernier de voir un respect du cessez-le-feu. Malheureusement, ce cessez-le-feu a à nouveau été violé. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons rencontré l'OSCE hier, c'est de permettre aux représentants de l'OSCE d'avoir un plein accès à cette zone afin de surveiller la situation et le respect du cessez-le-feu. Bien sûr, le retrait également des armes lourdes. La situation est mitigée. On parle parfois de retrait d'armes lourdes, mais également de déplacement vers le front d'armes lourdes à nouveau. Donc, malgré cette situation mitigée, nous soutenons les efforts de toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre des accords de Minsk, puisque c'est la seule manière de trouver une solution pacifique en Ukraine. En ce qui concerne la propagande russe, la Russie investit beaucoup dans divers moyens de propagande. Nous n'allons pas lutter contre la propagande avec la propagande, par la propagande, mais nous devons rester vigilants, être prêts à offrir une réponse, à déclarer la vérité des chiffres et des faits. Nous n'allons pas répondre à la propagande par la propagande, mais nous allons donner des chiffres et des faits, puisque nous sommes certains que la vérité prévalera au final. Étant journaliste, vous avez votre rôle à jouer dans les sociétés démocratiques, d'être critique envers les gouvernements, envers l'OTAN, envers nous tous, mais également d'être au fait du risque d'être des cibles de la propagande et éviter d'être manipulé d'une manière ou d'une autre. Donc ayez l'esprit critique envers toutes les informations. Philippe Renier, le soir, vous avez parlé pour parler d'adhésion avec le Monténégro, mais que voyez-vous en matière de la situation dans ce pays, puisqu'il semble y avoir des manifestations contre l'adhésion, y voyez-vous une influence russe? Le Monténégro est une société démocratique qui a beaucoup progressé par le biais de réformes. Ils ont mis en place l'état de droit, ils luttent contre la corruption et nous les encourageons à poursuivre cette voie de réforme. Mais puisque le Monténégro est une société démocratique, les opinions divergent. Nous devons respecter le fait que dans toute société ouverte, des opinions différentes pourront être exprimées à propos de sujets comme l'adhésion à l'OTAN, par exemple. Mais le Monténégro a décidé à plusieurs reprises de poursuivre la voie vers l'adhésion à l'OTAN. Cette poursuite s'effectue par des processus démocratiques. Et il en reviendra au Monténégro et aux 28 alliés de décider si oui ou non le Monténégro va rejoindre l'Alliance. Personne d'autre ne peut intervenir.
Dernière question. Deutsche Zeitung. Une autre question sur la demande qui a été faite par les États-Unis pour que l'OTAN participe davantage aux efforts de la coalition contre Daesh à Berlin. Il est dit que la participation de l'OTAN en tant qu'alliance risque de saper les efforts de la coalition, car cette coalition risque d'être perçue comme étant trop occidentale. Est-ce que vous partagez cette préoccupation ? Réponse. L'OTAN est déjà présente dans cette région de différentes façons. Nous apportons un soutien à la Jordanie, nous apportons un soutien à l'Irak, nous avons une coopération de partenariat avec l'Irak, nous allons bientôt commencer la formation d'officiers irakiens. Nous aidons la Tunisie et nous sommes aussi présents le long de la frontière de l'Irak et de la Syrie avec les mesures d'assurance pour la Turquie. Donc l'OTAN est déjà présente. Deuxièmement, il paraît difficile de comprendre qu'on puisse dire que cette coalition va devenir encore plus occidentale, sachant qu'elle est déjà menée par les États-Unis et que le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, tous les pays alliés font déjà partie de cette coalition. Ce qui est important, c'est le fait de renforcer les capacités locales, de renforcer les gouvernements, leurs capacités militaires dans la région pour qu'eux puissent combattre Daesh. Et c'est pour cette raison qu'il faut que l'OTAN en fasse plus pour la formation, l'assistance, l'aide apportée aux forces et aux gouvernements de la région. Car si eux sont plus capables de combattre Daesh, c'est dans l'intérêt de tous. L'Allemagne fait partie de la coalition. Les États-Unis ont demandé ce soutien. Nous allons examiner cette demande et prendre une décision. Merci beaucoup. La conférence de presse est maintenant terminée, mais vous êtes bien sûr tous invités à notre réception du nouvel an. Il est encore un petit peu tôt peut-être pour boire un verre, mais vous aurez l'occasion de discuter de façon informelle avec le secrétaire général.